Europe 1.
Europe 1, 10h, 11h.
Mediapolis.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Bonjour Catherine Ney.
Bonjour Olivier, bonjour Justine, bonjour tout le monde.
C'est Mediapolis, l'émission sur les rapports entre médias et politique. Mediapolis avec Catherine Ney, que vous venez d'entendre, réalisée par Julien Blanc, préparée par Capucine Patouillet, animée en compagnie de Justine Holman. Et aujourd'hui, à nouveau, une sorte de tour d'Europe et un peu plus, puisque nous allons faire cette émission avec les correspondants d'Europe 1 en Italie, Blandine Hugonnet, en Espagne, Henri de la Guérie, en Allemagne, Hélène Kohl, à Bruxelles, Isabelle Horry, aux États-Unis, Xavier Yvon, et puis un témoin, notre ancienne correspondante au Royaume-Uni, qui a bien voulu nous rejoindre, Johanna Chabas. Mais et tout ce petit monde est loin les uns des autres, on ne se voit même pas, et pourtant, on va essayer de faire cette émission sans trop d'accroc. Pour commencer, c'est le plus facile, c'est le président de la République qui nous rend visite.
Bonjour Monsieur le Président.
Oui, bonjour à toutes et à tous.
Alors l'État réfléchit à donner aux Français un passeport avec un tampon si on a eu le coronavirus et donc qu'on est immunisé. Et les policiers pourraient contrôler ce passeport dans les rues.
Écoutez, je trouve que c'est une formidable idée. Le passeport à virus.
Oh, non.
Et en plus, ça donnera lieu à des jeux rigolos.
Ah oui.
Vous savez, on pourra faire comme les vrais passeports, on compare ces tampons. Ah tiens, toi tu as le tampon de sida? Ah oui, ben moi j'ai juste le tampon de l'herpès. Ah c'est drôle, tu vois. Voilà, voyez ce jeu.
Oui, oui, c'est
oui, ça fait moins rire, oui, forcément.
On va s'amuser, monsieur le Président.
Ça donne envie, oui, oui, oui. Le JDD titrait hier sur le mystère des tests introuvables. Mais ils sont où ces tests, monsieur le Président?
Alors, j'ai une très bonne nouvelle, ils arrivent ces tests.
Ils arrivent. Et les masques?
Alors là aussi, encore une bonne nouvelle, ils arrivent les masques.
Et les surblouses pour les infirmières?
Écoutez, puisque vous me posez la question, décidément, ça n'arrête pas les bonnes nouvelles, elles arrivent. Tout est... En fait, on va tout vous dire.
Quoi?
Tout est dans le même carton.
Ah, d'accord, mais c'est super, toutes ces bonnes nouvelles. Hein. Mais dites-moi, ça arrive quand?
Alors, écoutez, je vais vous dire... La stricte vérité.
Ouais.
La vérité, c'est Sibeth Ndiaye qui a tout commandé. Ce sera livré par Chronolost.
Non, Chronolost et Chronopost.
Oui, je sais, mais elle a commandé sur Chronolost. Voilà.
Ah,
voilà.
Ah bon,
donc
oui.
on est en train de faire un suivi de courrier.
C'était donc Nicolas Cantelou ce lundi. Alors, cette semaine, je trouve que dans la façon de gouverner le pays, on a assisté à un véritable changement de la part du président de la République, Emmanuel Macron, qu'on traitait de Jupiter. J'inventerais volontiers un néologisme entre jacobin et girondin, et je dirais qu'il est jacondin, c'est-à-dire que il y a toujours l'État central, mais il délègue considérablement l'application au plan local. Il a quand même fait le 23 avril 4 heures de visioconférence à l'Élysée, avec les présidents de 6 associations de maires et 14 maires, 20 personnes pendant 4 heures pour préparer ce relais passé aux maires. Catherine Ney, ça vous dit quoi?
Oui, pour la deuxième fois, Emmanuel Macron s'adresse aux maires. La première fois, il ne les connaissait pas, voyez, c'était en pleine crise des Gilets jaunes, et il fallait lancer le grand débat, c'est-à-dire qu'il avait demandé aux maires par région, ils étaient de lui poser des questions qui les intéressaient pour leur répondre, et puis qu'avait-on vu? Un one-man show qui avait duré 6 heures, 7 heures, au milieu de maires qui étaient restés assis pendant tout ce temps, et lui ne s'est pas demandé s'ils avaient faim, soit besoin de se dégourdir les jambes, voire de faire pipi. Moi, j'avais trouvé l'exercice assez narcissique. Bon, c'était brillant, il avait parlé sans boire, sans rien. Enfin, on se disait, il est hors norme. Alors, ça avait été assez efficace, parce que le mouvement des Gilets jaunes avait fini par s'effilocher, enfin doucement, mais il faut dire aussi qu'il avait lâché pas mal d'argent. Bon, cette fois, les maires... Je crois qu'il a besoin d'eux, parce que dans le déconfinement, dont on se demande à quel rythme il faut le faire, eh bien, ça change de ville en ville. Tout dépend du taux de virus, de la population, comment elle a été atteinte. Et puis, eux, ils savent le climat, ce qui se passe sur le terrain, ce qu'il est possible de faire, ouvrir les marchés ou pas, ouvrir les écoles ou pas. Et eux ont déjà se sont mis au travail pour combler les besoins en masques, hein, tous ou presque s'y sont mis, ce que l'État n'arrive pas à faire. Donc, vous savez, la seule grande école de la politique, et tous les maires vous le disent, c'est pas d'être député, c'est d'être maire, parce qu'on touche à tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont populaires, on apprécie leur dévouement, et là, le président Macron a vraiment besoin d'eux.
C'est vrai, et comme l'a question principale, c'est de construire de la confiance. Vous avez raison, ce sont les seules politiques dans lesquelles les Français aient confiance. Confiance, c'est aussi un problème en Italie. En Italie, est-ce que Blandine Hugonnet est avec nous ?
Oui, bonjour Olivier, bonjour Catherine.
Oui, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous un peu, où est-ce qu'on en est ? On a l'impression qu'il y a quelques incertitudes sur le déconfinement. Est-ce qu'il a été annoncé finalement ?
Alors, toujours rien d'annoncé, que des hypothèses et des spéculations de la presse sur ce qui va se passer dans les prochains jours. Alors, la date ici, c'est le 4 mai pour le déconfinement, mais visiblement, le gouvernement serait en train de réfléchir à un déconfinement en 4 étapes étalées sur 4 semaines, qui commencerait dès lundi avec l'ouverture de certaines industries, etc. Le 4 mai, ça serait plutôt le retour à la vie pour les Italiens qui pourront ressortir de chez eux, hein, avec l'attestation qui sera plus utile. Sera possible de se déplacer à l'intérieur des régions, alors pas entre les régions mais à l'intérieur. En revanche, le masque sera obligatoire dans les transports, par exemple. Il y aura des règles très, très strictes à suivre, etc. Donc, pour l'instant, on a des pistes, des hypothèses, mais rien de précis. Tout est extrêmement flou. Et on a un peu l'impression que Giuseppe Conte, le président du Conseil, repousse un peu ce moment où il va falloir dire très fermement ce qui est faisable, ce qui sera fait.
Et, Giuseppe Conte. Écoutons-le mardi, alors.
Avec l'aide de ces experts, nous élaborons un programme d'ouverture progressive, homogène au niveau national, qui nous permettra de rouvrir une grande partie des activités de production et commerciales, tout en maîtrisant la courbe de contagion.
Mais finalement, c'est très proche de ce qu'on voit ailleurs, et particulièrement en France. Il avait les experti, et il annonce un programme, mais il ne le précise pas.
Oui, exactement. Alors, il est censé nous donner avant la fin du week-end un décret officiel qui donne vraiment le programme très très précis avec les règles d'hygiène sanitaire, etc., et de sécurité à utiliser dans les transports, dans les commerces, etc., dans les bars, les restaurants. Mais pour l'instant, on a franchement rien. On sent qu'il y a vraiment cette prudence, voire cette le côté un peu frileux de donner
les Italiens lui font des informations. Oui, les Italiens lui font confiance, apparemment. Il est très populaire.
Oui, alors toujours. Pour l'instant, la cote de popularité est toujours très, très élevée. Il a pris 20 points de popularité depuis le début de l'épidémie. Donc ça, il n'y a pas de souci. En revanche, on sent quand même que ça s'effrite un peu, que ça pourrait en tout cas s'effriter sur ce moment délicat, cette étape délicate du déconfinement. Parce que c'est à ce moment-là on va mesurer sa légitimité à être un peu le chef de guerre de ces dernières semaines. Et c'est pour ça qu'il précise à chaque fois qu'en fonction de la courbe de la contamination, tout sera remis à l'arrêt si besoin.
Et je crois qu'il y a eu aussi un débat entre ce qui doit être fait au niveau central, ce qui doit être fait par les régions. Vous nous en dites deux mots juste après une petite minute de pause.
Jusqu'à 11h, Mediapolis s'intéresse à la crise du coronavirus à l'étranger. Olivier Duhamel et Catherine Ney sont de chez eux pour analyser les témoignages de nos correspondants sur place, comme c'est le cas de Blandine Hugonnet en Italie.
Alors Catherine Ney soulignait au début de l'émission l'importance des maires qui a été reconnue par Emmanuel Macron. Du coup, ça fâche un peu les régions d'ailleurs de ne pas être plus associées. Je crois qu'il y a eu un débat de ce type en Italie, Blandine, non ?
Oui, toujours. Hein. Les régions, c'est vrai qu'elles ont beaucoup de puissance, notamment sur le secteur de la santé, de l'école par exemple, ont tendance à faire un peu chacune à leur sauce depuis le début de l'épidémie sur la façon dont il faut gérer la fermeture des secteurs, les restrictions, les mesures pour les habitants, etc. Et là encore, sur le déconfinement, il y a toujours ce débat, évidemment. Alors, en revanche, le président du Conseil a prévenu qu'il n'était pas question de faire un plan régionalisé, adapté à chaque région. Le Nord est très touché, le Sud beaucoup moins, par exemple. On aurait pu imaginer que ça soit adapté, et non. Il a dit le plan sera homogène, harmonieux, national. Donc pas question de laisser trop de liberté aux régions. En revanche, pour se protéger un peu politiquement, on va dire, pour éviter qu'on lui mette sur le dos l'échec d'un déconfinement mal géré, il va laisser quand même certaines libertés aux régions en leur disant « je vous laisse la possibilité de remettre des restrictions quand vous sentez que c'est nécessaire de contenir l'épidémie, etc. » Mais pas d'autorisation à une réouverture adaptée à chaque région. Parce que c'est uniquement dans le sens des restrictions et des fermetures.
Merci beaucoup, Blandine. On va maintenant aller un peu plus à l'ouest dans la Méditerranée. On va aller en Espagne retrouver Henri de Laguerry, où on va voir que, pour le coup, le débat avec les régions, il est également très vif. Vous êtes avec nous, Henri ?
Oui, bonjour, Olivier.
Bonjour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé d'important cette semaine ? J'ai l'impression que ça chahute pas mal entre le chef du gouvernement, les oppositions, les décisions qui vont dans un sens puis dans l'autre.
Oui, effectivement. Alors, il y a quelques semaines, on pouvait regretter qu'il n'y ait pas vraiment d'union nationale. Là, c'est pas qu'il n'y a pas d'union nationale, c'est qu'il y a une guerre de tranchées et une violence dans les débats parlementaires terribles. On a le sentiment d'un côté que l'opposition fait feu de tout bois et espère presque que la situation s'empire pour pouvoir récupérer le pouvoir bientôt. De l'autre, on a un Pedro Sanchez, le socialiste, qui décide presque tout seul, qui n'a parlé que trois fois au téléphone depuis le début de la crise avec le leader de l'opposition, et on a donc eu des débats au Parlement cette semaine assez durs, avec évidemment derrière tout ça l'extrême droite Vox qui a directement porté plainte contre le gouvernement pour imprudence grave dans cette crise du coronavirus. Vox qui parle sans cesse de ce gouvernement socialo-communiste, mais c'est vrai que le chef de l'opposition, Pablo Casado, lui, est très virulent.
On va l'écouter.
Oui, mais alors, on si a l'impression
bien. Attendez juste, Catherine, on écoute Pablo Casado, oui. Et vous intervenez après, d'accord?
Chaque jour, des centaines de personnes continuent de mourir dans notre pays. Il y a eu certaines journées en Espagne où on a eu l'équivalent de 5 attentats du 11 mars 2004 de Madrid. Il y a eu plus de morts liées au coronavirus en Espagne que de victimes chez les soldats alliés pendant le débarquement de Normandie.
Le président du Parti populaire, Pablo Casado, à la tribune du Congrès des députés, leur Assemblée nationale, ce mercredi. Catherine ?
Oui, c'est pour ça que 60% des Espagnols approuvent le confinement, et même certains voudraient que le gouvernement aille plus loin. Parce que, par exemple, oui, les Espagnols dénoncent des voisins qui sortent ou qui... c'est une habitude maintenant.
Effectivement, alors d'un côté les Espagnols critiquent la gestion du gouvernement espagnol, mais de l'autre ils appuient très majoritairement ce confinement très strict. Il y a encore une semaine, trois quarts des Espagnols trouvaient que c'était tout à fait normal que les enfants ne puissent pas sortir. Et c'est vrai que, alors, on n'a pas vu, comme on a pu peut-être parfois le voir en France, ces messages assez odieux contre des infirmiers ou des médecins, mais il y a des dénonciations des gens qui sortent dans la rue, ben, quand ils les voient, hop, ils appellent la police. Et on a presque le sentiment d'un espèce de concours un peu malsain à qui sera le plus vertueux et le plus discipliné dans ce confinement très strict. C'est peut-être aussi le résultat du fait qu'il y a eu ces règles assez strictes dès le début, où il est interdit de faire quelconque activité sportive, interdit de sortir ses enfants, même si à partir de demain ça va enfin changer, on pourra sortir une heure ses enfants par jour. C'est d'ailleurs la seule mesure.
Et d'ailleurs, il a été dit qu'ils pourraient accompagner leurs parents dans des supermarchés. C'est bizarre, non? Parce que c'est dangereux.
Effectivement, là, c'est encore la preuve d'une gestion quand même assez chaotique de la part du gouvernement, qui avait promis cet assouplissement pour les enfants. Mardi, le gouvernement sort et explique que désormais, la sortie, ce sera d'aller au supermarché et dans les pharmacies. Ça a provoqué un tollé en Espagne. C'est assez incroyable que personne au sein du gouvernement se soit rendu compte, pardon de le dire, de la bêtise de cette mesure. Et évidemment, le gouvernement, au bout de quelques heures, a rectifié. Pourront sortir, se promener dans la rue, et il ne s'agit pas d'aller évidemment au supermarché.
Vous savez, c'est étonnant, mais c'est un phénomène qu'on retrouve dans d'autres pays, et par exemple chez nous, qu'au début du confinement, vous avez eu une sorte de résistance, d'hostilité au confinement, de difficulté à l'appliquer, et puis les gens s'y sont faits. Et maintenant qu'on arrive au déconfinement, vous avez une résistance au déconfinement, exactement l'inverse de ce qu'on avait au début, parce que je crois la peur s'est répandue, tout simplement. Mais ce que vous voyez en Espagne, on a la même chose. On a la même chose chez nous, Henri. Est-ce qu'on a la même chose en Allemagne? Je vais poser la question, évidemment, à notre correspondante. Merci infiniment, Henri de la Guérie. À notre correspondante Hélène Kohl, juste après une petite respiration.
Petit tour médiapolitique à l'étranger ce matin dans Mediapolis, direction l'Allemagne. Tout de suite, Olivier Duhamel et Catherine Ney avec Hélène Kohl, notre correspondante sur place.
Alors, en France, ça ne veut pas déconfiner, ça ne veut pas envoyer les enfants à l'école. En Espagne, on vient de voir avec Henri de la Guérie une résistance au déconfinement. Mais en Allemagne, ce n'est pas exactement ça, je crois, Hélène Kohl.
C'est même pas du tout ça, puisqu'on a clairement un grand relâchement constaté depuis lundi. Depuis lundi, c'est officiellement le début d'un retour progressif à la normale, avec la réouverture des commerces de moins de 800 mètres carrés. Mais en réalité, on a assisté à ce qu'Angela Merkel a appelé une orgie de discussion autour des réouvertures. Alors c'était un mot allemand à tiroir, là, hyper long, que beaucoup de gens ont critiqué, parce que c'est rare que la chancelière dérape un petit peu comme ça et hausse le ton de la sorte. Clairement, elle a dénoncé la surenchère qui se joue actuellement entre les différents lenders allemands. Et c'est un petit peu la course à celui qui proposera le plus vite possible à sa population un retour à la normalité. Alors qu'officiellement, la chancelière a dit pas d'enfants dans les écoles avant le 4 mai. Il y a eu cette semaine à Berlin, des épreuves du baccalauréat qui ont été passées, certains élèves qui ont repris les cours, également en Rhénanie-Palatinat. En Rhénanie-Palatinat, on autorise de nouveau les meetings politiques, les réunions politiques. Donc vous voyez, ça part un petit peu dans tous les sens.
C'est très intéressant, c'est pas du tout la même chose qu'en France. Hein. C'est-à-dire que on disait toujours les Allemands disciplinés et les Français frondeurs. Bah, 95% des gens appliquent les règles en France et en Allemagne, il y a des signes, entre guillemets, d'indiscipline.
Alors exactement, moi j'ai l'impression que cette semaine en tout cas est une belle preuve pour tous ceux qui croient encore que les Allemands sont disciplinés. Alors en fait 55% des Allemands estiment que les mesures d'ouverture décidées cette semaine sont correctes et 30% estiment quand même que ça va trop loin. Mais résultat, dans les faits, on constate, ne serait-ce qu'en regardant les données téléphoniques, une augmentation considérable, presque 20% des déplacements des Allemands. Et je peux vous dire que hier soir dans les parcs de Berlin, on n'avait absolument pas l'impression qu'en théorie personne n'avait le droit de rencontrer ses amis avant le 4 mai. Hier soir, c'était absolument des barbecues.
Oui, alors que la chancelière prévient les Allemands, nous ne sommes pas à la fin de la pandémie, mais juste au début, nous marchons sur la glace la plus fine qui soit. Elle semble avoir peur. Et d'ailleurs, le président Schäuble, qui a dit à son homologue Richard Ferrand, que lui pensait que l'épidémie allait arriver, que bientôt l'Allemagne et la France auraient des chiffres comparables en mortalité.
Écoutons Angela Merkel qui fait écho à Catherine Ney.
Nous ne devons surtout pas perdre des yeux que nous sommes simplement au début de la pandémie et loin d'être sortis d'affaires. Et c'est pourquoi nous devons agir pas à pas, lentement et prudemment. Nous devons rester vigilants et disciplinés. Et quand je dis nous, je pense à tous les habitants de ce pays.
Discipliner bleiben, rester discipliné, c'était lundi 20 avril, la chancelière allemande. Elle est écoutée quand même, elle est très populaire, Mouti.
Oui, effectivement, là, le dernier sondage, il y a encore 83% des Allemands qui sont extrêmement satisfaits de son travail, 90% des Allemands qui estiment que le gouvernement gère parfaitement bien cette crise. Mais alors, c'est vrai que c'est intéressant, c'est-à-dire que quand la crise arrivait, quand le virus arrivait, quand l'épidémie était en train de se répandre dans l'Allemagne, il y a eu un réflexe, je dirais, d'union sacrée derrière la chancelière. Et le fédéralisme a fonctionné, mais avec une certaine ligne directrice donnée par Berlin. Merkel avait dit à la mi-mars, voilà ce qui est interdit, on n'a pas le droit de sortir, etc. Après, si vous voulez faire des mesures plus restrictives dans vos régions, libre à vous de le faire. Et bien inversement, maintenant que la crise semble passer, l'Allemagne a l'impression de s'en sortir plutôt mieux que d'autres face à cette épidémie, et bien c'est le grand retour du politique. Il y a clairement une surenchère politique entre les régions, entre celles qui sont gouvernées par la CDU d'Angela Merkel, celles qui sont gouvernées par un autre parti, en l'occurrence le SPD par exemple. Chacun essaye de se démarquer. Et puis au sein même des régions gouvernées par la droite, la CDU, il y a effectivement aussi une forme de concurrence entre les différents patrons de région. On dit toujours que pour devenir un jour chancelier, il faut avoir gouverné une région en Allemagne. Et donc clairement, il y a, alors qu'on est à un an de la succession d'Angela Merkel, il y a vraiment une course qui a commencé entre certains patrons de région, notamment le grand chef de la Rhénanie du Nord-Westphalie, 20 millions d'habitants, Armin Laschet, qui est d'ailleurs candidat pour prendre le poste de chef de la CDU. Il y a aussi la Bavière, évidemment. Alors là, c'est la CSU, enfin, c'est la même famille de conservatrices. Et donc là, ces deux hommes-là sont clairement dans une surenchère. D'un côté, la Rhénanie-Westphalie qui veut ouvrir le plus vite possible, quitte à critiquer ouvertement Merkel pour se détacher de la chancelière. Et puis la Bavière qui, elle, est une ligne extrêmement restrictive sur un modèle autrichien ou français.
Alors, mais est-ce que l'hypothèse d'une réélection pour un cinquième mandat de la chancelière est possible? Parce qu'il y a des Allemands qui disaient pourquoi pas ces temps-ci.
Oui, c'est possible ou pas? Alors ça, c'est effectivement, ça a été une des manchettes du Bild Zeitung qui disait, et si Angela Merkel était pas candidate une cinquième fois, c'est possible, rien ne l'interdit en théorie. Après, Angela Merkel, généralement, elle ne fait pas ce qu'elle n'a pas dit. Donc elle a dit qu'elle ne serait pas candidate une cinquième fois, qu'elle compte arrêter la politique en septembre 2021, disons quelques mois après, le temps que le nouveau gouvernement se mette en place. Donc je pense qu'elle n'ira pas plus loin. Elle a fait quand même 14 ans au pouvoir, elle a 66 ans cette année, elle a traversé un certain nombre de crises politiques et on le voit, hein, clairement. Bon, là, on la retrouve en capitaine de crise, mais clairement, elle est plus fatiguée qu'il y a quand même une dizaine d'années. Elle arrive au bout de sa carrière politique, c'est clair. Après, rien n'est impossible, tout simplement parce que, pour l'instant, la CDU ne peut pas rassembler de congrès pour décider qui sera le candidat.
Donc, pour l'instant, les Allemands aiment la stabilité.
Les Allemands aiment la stabilité, cela dit, quand on regardait avant la crise, il y avait quand même beaucoup d'Allemands qui estimaient que c'était le moment de tourner la page. Mais effectivement, ça c'était un titre cette semaine dans la presse, comme nous sommes heureux qu'elle soit encore là en ce moment.
Mais vous savez, 14 ans de pouvoir, j'en connais qui en rêveraient en France, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Vous disiez, Hélène, que les Allemands avaient le sentiment que chez eux ça se passait plutôt mieux, c'est une vérité incontestable. Ce qui va être compliqué, c'est d'en trouver toutes les causes, parce que tout le monde dit c'est parce que c'est un pays qui avait préparé les choses, parce qu'il a un meilleur système hospitalier, en tout cas plus de lits, c'est vrai, parce qu'il a une industrie, y compris sur les produits dont on a besoin, c'est vrai. Mais il y a quand même beaucoup de mystères encore quand on creuse un peu les comparaisons entre les pays. Pourquoi est-ce que les pays de l'Est de l'Europe sont si peu touchés que ça par rapport à la partie occidentale de l'Europe? Et ça, c'est pas une question de meilleur système de santé, hein, et de meilleur système hospitalier. Il y a quand même un truc qui marche pas complètement aussi bien qu'on pourrait le dire en France, c'est sur les masques, je crois, non?
Oui, effectivement, l'Allemagne est dans la même situation que la France sur les masques, il n'y a pas assez de masques. Mais assez vite, ça a été assez transparent, la chancelière l'a évoqué, les présidents de région l'ont dit, le ministre de la Santé également. Donc les quelques masques qui existaient ont été réservés au personnel hospitalier qui en avait le plus besoin. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas d'obligation pour porter les masques ici, édictés par Merkel directement au plus haut niveau. Donc les régions...
D'ailleurs, dans les rues de Berlin, on ne voit aucune personne avec un masque.
Alors, les régions ont pris cette semaine, les unes après les autres, c'est la grande liberté du fédéralisme, ils ont eu l'impression d'être indépendants de leur prise de décision, mais en fait, ils se sont tous suivis. Donc, partout en Allemagne, il est désormais obligatoire, bien obligatoire, de porter un masque dans les transports publics. Dans certaines régions, certains Länder, c'est obligatoire aussi de porter un masque dans les commerces. Et puis, il y a quelques villes ici ou là, par exemple Jena, qui contraignent sa population à porter un masque dès qu'on est dehors, dans l'espace public, quel qu'il soit. Et dans ces cas-là, les populations sont invitées à trouver des masques un peu comme on peut. Ici à Berlin, la régie de transport public a dit qu'il suffit de se couvrir le nez et le visage. Avec un foulard, ça suffit. Mais ne serait-ce que pour se souvenir qu'il faut faire attention et être respectueux les uns des autres.
Merci beaucoup, Hélène Kohl. Je retiendrai comme définition du fédéralisme allemand une nouvelle définition. On fait tous la même chose, mais c'est chacun d'entre nous qui décide de faire la même chose. C'était très très parlant. Du côté du Royaume-Uni, c'est aussi passé des choses absolument incroyables. Et Johanna Chabas va nous en parler dans une minute trente.
Ce matin, Olivier Duhamel et Catherine Ney sont de chez eux pour Mediapolis. Ils continuent à vous informer en toute sécurité. Et ce samedi, on fait un tour du monde pour voir comment est gérée et vécue la crise à l'étranger, notamment en Angleterre avec Johanna Chabas.
Oui, Johanna Chabas, bonjour, vous êtes là?
Bonjour Olivier, bonjour Catherine.
C'est très gentil d'être là, vous étiez la correspondante d'Europe 1 au Royaume-Uni, mais vous avez bien voulu venir nous rendre compte un peu de ce qui se passe, parce que très franchement, on a du mal à comprendre, parce que Boris Johnson a eu une attitude incroyablement erratique, changement complètement de point de vue, les choses se passent pas si bien que ça au Royaume-Uni, et pourtant, il est très populaire. Comment expliquez-nous?
Eh bien, c'est vrai que ça a été assez chaotique au Royaume-Uni. On se dirigerait vers le plus lourd bilan d'Europe là-bas, donc c'est effectivement très grave. Mais Boris Johnson, il y a cette sympathie avec les Britanniques. Le fait, je pense, de tomber malade l'a aussi aidé. On a pu le voir, enfin paradoxalement l'aider, on a pu le voir très malade, très affecté, très fatigué. Le pays était complètement suspendu au sort du Premier ministre pendant ses jours en soins intensifs. Donc je pense que ça a pu le permettre de paraître plus sympathique aux yeux des Britanniques.
Par rapport à son successeur, celui qui le remplace de façon intérimaire, qui est moins sympathique aux Anglais peut-être aussi.
Oui, c'est ça aussi, c'est que Boris Johnson a toujours eu ce talent pour les discours, pour parler en conférence de presse, il est toujours très bon, alors que d'autres ministres qui ont du coup pris sa place pendant son absence ont plutôt brillé par parfois leur manque de connaissances, leur manque d'aisance. Et on a pu remarquer, les Britanniques ont pu remarquer que Boris Johnson leur manquait dans ses conférences de presse. Il y a de plus en plus un appel pour qu'il revienne, pour un peu défendre son gouvernement qui est de plus en plus critiqué, notamment au moment de son absence. Il y a eu quelques jours de trêve, disons, pendant sa maladie, mais maintenant ça reprend de plus en plus fort, depuis une semaine à peu près. Et donc voilà, on appelle à ce que Boris Johnson revienne pour défendre, pour expliquer. Ça devrait être peut-être pour la semaine prochaine.
Enfin, il se passe quand même une chose incroyable, très intéressante et qui va chercher à expliquer en profondeur. À chaque fois qu'il y a une guerre ou une crise, alors, et Dieu sait que cette crise-là est totalement imprévue, colossale, inédite, invisible, insidieuse, fait peur, etc., il y a un ralliement autour du chef. Et que ce soit Giuseppe Conte en Italie, que ce soit Angela Merkel en Allemagne, que ce soit Boris Johnson au Royaume-Uni, ils se sont pris au moins 20 points ou plus d'augmentation de leur popularité. Et en France, 4 points maximum pour Macron. Ce qui a fonctionné...
Et en Espagne, rien du tout.
Oui, en Espagne, rien du tout, en effet. Mais en Espagne, il est minoritaire, il est arrêté d'une coalition. C'est un peu différent, mais vous avez raison. En Espagne, rien du tout. Mais quand même, pourquoi est-ce que ça marche si bien chez nos voisins et pas chez eux? C'est à chaque fois, on a une explication endogène, en quelque sorte, mais ça reste quand même assez impressionnant. Et la reine, pendant ce temps-là, la reine, c'était son anniversaire, non?
Et oui, tout à fait, c'était son anniversaire, c'est 94 ans qu'elle a fêté très différemment, pas de sortie publique, la cérémonie qui est prévue en juin est annulée, il n'y aura pas de parade, il n'y aura pas de coup de canon, il y a juste eu une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, une vidéo de son enfance, des souvenirs avec sa sœur, qui a été extrêmement relayée sur les réseaux sociaux. Voilà, même la crise affecte l'anniversaire de la reine.
C'était The Crown, nouvelle saison.
Oui, moi, je voulais savoir, le 30 juin, l'Europe doit décider avec les Anglais si on prolonge les discussions du Brexit au-delà du 31 décembre de cette année. Sinon, eh ben, on sortira sans accord, ce qui va être encore un choc économique majeur, aussi bien pour les Européens que pour les Anglais. Alors, est-ce que le Brexit, on en parle en ce moment où le Covid-19 a tout arrêté?
Eh bien, ça reprend un petit peu, mais en fait, disons, de la pire des façons pour Boris Johnson, c'est qu'on a remarqué que le gouvernement ne s'était absolument pas préparé à une pandémie, n'a pas donné assez de moyens aux services de santé parce qu'il était justement trop occupé à se charger du Brexit, à prévoir des plans, à vouloir négocier. Et donc le Brexit commence à se teinter d'une légère couleur, disons, négative au Royaume-Uni de ce mouvement politique qui a empêché peut-être une plus grande préparation envers cette pandémie de Covid-19.
Oui, les Britanniques, ils aiment beaucoup leur système de santé, le fameux NHS, la National Health Service, c'est ça? Et en fait, on s'aperçoit qu'il ne marche pas si bien que ça.
Ben non, c'est ça, il leur manque plein d'équipements, il leur manque des masques, il leur manque des blouses, il leur manquait énormément de lits. Le Royaume-Uni a dû ouvrir plein d'hôpitaux de campagne pour faire face à l'afflux de personnes, et pour les Britanniques c'est très important, le NHS c'est cette fierté, c'est ce bijou national, et donc de le voir en difficulté, ça peut faire extrêmement peur, et du coup ça a développé plein de mouvements au Royaume-Uni, de soutien, d'appels à solidarité. Il y a notamment ce capitaine Tom, donc 99 ans, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, qui a fait la une de tous les journaux avec son acte caritatif. Il a proposé de faire 100 fois le tour de son jardin. Alors il est en déambulateur, il va très doucement, mais il y a réussi, et il a réussi à récolter près de 30 millions d'euros. Donc évidemment c'est énorme. Il a aussi sorti une chanson qui est arrivée hier à la tête des ventes au Royaume-Uni. Donc c'est ce début de, voilà, ce NHS qui est si important pour les Britanniques est en difficulté, et les Britanniques se relaient derrière pour le soutenir, les applaudissent tous les soirs, comme en France à 20h. Voilà, c'est un système.
Et puis on découvre aussi que heureusement qu'il y a des immigrés. D'ailleurs, Boris Johnson a remercié ses soigneurs ou ses soignants qui tous deux étaient les principaux, n'étaient pas des Britanniques.
Oui, tout à fait. Il a cité par leur prénom une qui venait de Nouvelle-Zélande notamment, et ça a été très insisté. Il y a eu une vidéo qui a été sortie qui montrait toutes, voilà, les forces comment les travailleurs immigrés sont importants au Royaume-Uni, et donc on peut peut-être penser que ça peut aider au Royaume-Uni, ces choses-là. Cette vidéo a été très relayée, notamment.
Ça aussi, c'est intéressant quand on fait un voyage comme ça, de s'apercevoir que au Royaume-Uni, les immigrés sont honorés d'une certaine manière. En Italie, il y a un vrai débat pour savoir s'ils vont pas régulariser 200 ou 300 000 migrants, ne serait-ce que parce qu'ils en ont besoin pour les travaux agricoles. Et par exemple, en France, la presse, les grands médias s'intéressent assez peu à la situation dans les centres de rétention de nos sans-papiers, alors qu'ils peuvent pas être expulsés puisque les frontières sont fermés et qu'ils devraient évidemment fermer ces centres. Et au Portugal, ils ont donné des papiers aux provisoires de quelques, pour 3 mois, je crois. Donc le problème surgit plus ou moins dans des pays et est traité plus ou moins bien. Merci infiniment, Johanna. C'était très très important de vous avoir. Et maintenant, ben, on va s'élever, si je puis dire, au supranational. On va aller en Europe, à Bruxelles, avec Isabelle Horry. Isabelle Horry, vous êtes avec nous ?
Oui, je suis là, bonjour.
Bonjour. Alors, il y a eu un sommet européen.
Alors, oui, il y en a eu un sommet. Enfin, les sommets européens, ces jours-ci, ils sont virtuels, hein, ils se passent par vidéoconférence. Donc, effectivement, il y a eu une vidéoconférence des 27 dirigeants jeudi soir, qui a duré un peu plus de 4 heures. Alors, pour une fois, il y a quand même quelques bonnes nouvelles, parce que déjà, ils sont sortis pas fâchés les uns contre les autres. Ce qui ces temps-ci était quand même une gageure, parce que c'est vrai que les dernières réunions européennes étaient très, il y avait beaucoup d'amertume et beaucoup de tensions entre le nord et le sud de l'Europe. Là, au moins sur la forme, ça s'est bien passé. Et le premier ministre italien qui ces derniers temps est justement sans doute celui qui est le plus en colère contre l'Europe, est sorti en disant qu'il y avait des gros progrès. Alors pourquoi est-ce qu'il dit qu'il y a des gros progrès? Parce que là, il n'y a pas encore une solution magique pour l'Europe d'après la crise. Mais les Européens qui sont donc en train de plancher, non plus sur l'urgence, hein, sur la réponse immédiate à la crise, ça ils ont déjà fait, ils sont en train de réfléchir à comment on va sortir de cette énorme récession dans laquelle on va tous plonger. Et comment surtout, à la sortie, on sort l'Union européenne pas déclassée par rapport à la Chine et aux États-Unis. Donc ils sont d'accord sur le grand principe de faire un fonds de sauvetage, un fonds de reconstruction qui viendra en aide aux secteurs les plus stratégiques et qui viendra aussi en aide aux régions les plus touchées. Ça, c'est acté sur le principe et c'est ça, aussi acté.
Oui. Ça, c'est une vraie nouveauté pour qu'on comprenne bien. C'est-à-dire qu'à chaud, il y avait déjà la Commission qui avait mis un plan d'urgence et surtout la Banque Centrale Européenne qui avait dit qu'elle achetait des obligations d'État pour 1 000 milliards pour éviter la faillite. Quoi.
Et là, on est dans une phase. Il y a eu un plan d'urgence. Voilà. Exactement. Mais là, on parle de l'après.
Et voilà, on parle de l'après et donc d'aider. Pour que les pays européens les aider dans la relance pour éviter la dépression prolongée. C'est ça dont on parle.
Voilà, c'est ça, exactement. On n'est plus sur le tout de suite. Ça, ils ont fait. Ils ont fait les dernières semaines. Oui. Ils ont débloqué à peu près 500 milliards d'euros pour l'urgence. Maintenant, ils essayent de réfléchir à comment se redresser. Parce que ça va être quand on va sortir de la crise, beaucoup de pays vont être vraiment complètement exsangues. Alors, on pense à l'Italie, par exemple, qui a déjà une dette extrêmement élevée de plus de 130% de son PIB. Et qui dit, moi j'ai besoin qu'on soit tous ensemble parce que je ne vais pas encore m'endetter jusqu'à 170-180%.
Ça va devenir raisonnable. Le progrès, les Pays-Bas s'y opposaient et les Allemands étaient plutôt du côté du Pays-Bas et quelques pays d'Europe du Nord, et que maintenant ils en acceptent au moins le principe et on discute des modalités, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Le principe est acté. On sait que ça sera plus de 1 000 milliards d'euros déjà. Et maintenant, alors c'est là où vous avez raison, et c'est là le gros problème qui reste devant les Européens à résoudre ces prochaines semaines, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? C'est-à-dire, est-ce que ça va être des prêts? Et ça, c'est ce que veulent les Pays-Bas ou l'Allemagne. C'est-à-dire, on prête l'argent aux pays qui ont été le plus en difficulté. Il faudra qu'ils le rendent. Ou alors, comme le veut la France, comme le veulent l'Italie, l'Espagne, est-ce que cet argent... Il est emprunté par l'Europe et il est donné aux pays et aux secteurs stratégiques qui en ont le plus besoin. Avec cet argent, il n'est pas remboursé. Et ça serait vraiment un grand pas dans la solidarité.
Alors, et on ne peut pas avoir là. Une solution intermédiaire dans laquelle...
Alors justement,
très longtemps. Voilà, avec un taux très bas, ce qui fait que c'est presque comme si on donnait.
Oui, mais alors, quand on parle de ces prêts à très long terme, comme dit la France, ce serait quand même le budget européen et la Commission qui les rembourserait. Non, vraiment, la grande différence philosophique, c'est soit on prête, soit on donne. Et là, il y a vraiment le Nord qui dit on prête, le Sud qui dit on donne. Et maintenant,
les pays bien gérés veulent prêter, les pays qui sont mal gérés, qui sont en déficit, ils veulent qu'on leur donne. Quoi. C'est ça la grande. Voilà, il est là.
Alors, je vais faire
le. Catherine, que vous êtes sur la ligne néerlandaise.
Oui, voilà. Je vais me faire l'avocat des pays du Sud. C'est-à-dire que l'idée, il faut peut-être pas voir le problème comme ça. Le risque, s'il y a des si grandes différences entre effectivement un Nord qui a les moyens et qui aura les moyens de réinvestir et qui surtout, on le voit pour l'instant en Allemagne, est moins touché par l'épidémie que ne peut l'être le Sud. Le risque, surtout, c'est de créer une très très grande différence entre le Nord et le Sud. Et cette différence, elle peut casser la zone euro, elle peut casser aussi le grand marché européen. Et c'est au nom de ça que par exemple Emmanuel Macron dit non, il faut qu'on soit tous ensemble, qu'on soit solidaires, parce qu'en fait on est tous dans le même bateau. C'est pas que l'Allemagne et les Pays-Bas s'en sortiront bien. Si le Sud ne s'en sort pas, vous n'aurez plus d'endroit où vendre vos produits, les frontières se fermeront et du coup ça sera pas bon pour vous non plus. C'est ça l'argument des pays du Sud.
Et Isabelle, on peut même pousser le raisonnement, ça c'est la version entre guillemets négative, si c'est la cata, ça sera aussi la cata pour vous, mais j'ai cru comprendre que peut-être même les Allemands voyaient aussi l'autre sens de la médaille, c'est que si vraiment l'Italie, l'Espagne, les pays en difficulté se remettent relativement vite, c'est l'intérêt de l'Allemagne, parce qu'ils achèteront par exemple à l'Allemagne.
Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait le marché unique, il a depuis sa création avant tout profiter à l'Allemagne et aux Pays-Bas sont vraiment les pays qui en tirent le plus d'avantages, parce que ce sont les pays qui vendent. Aujourd'hui, si vous regardez dans nos cuisines, par exemple, on a beaucoup de je sais pas, de lave-vaisselle Bosch ou de un peu partout, on a des voitures allemandes. Avant, quand il y avait le marque, c'était plus cher et donc on n'achetait pas allemand, on achetait français ou on achetait italien. Maintenant, les produits allemands sont devenus moins chers soudainement grâce à l'euro et les Allemands ont pu vendre leurs produits dans toute l'Europe. Ils sont vraiment les grands bénéficiaires de la zone euro et c'est ça qu'on vient leur rappeler. C'est vous avez besoin de nous pour qu'on achète vos produits.
Formidable. Et finalement, c'est assez simple. Hein. On peut d'autant plus facilement devenir solidaire lorsqu'on comprend que c'est également son intérêt. Merci infiniment.
Est-ce que je voulais savoir aussi si la défiance vis-à-vis de la Chine qu'elle peut exprimer Angela Merkel joue aussi sur ce retour accentué vers les Européens en disant mais voilà, on est à un grand marché et peut-être même mieux que ça.
Très vite, Isabelle, parce qu'on a très peu de temps.
Alors on voit arriver, et on a vu arriver dans la discussion cette semaine, effectivement, cette idée forte de il faut qu'on soit plus souverain. Et alors, évidemment, la France a toujours été en faveur de ça, mais maintenant, c'est un argument qui convainc les autres aussi, parce qu'ensemble, on peut résister à la Chine et aux États-Unis aussi. Séparément, on n'y arrivera pas. Et ça, c'est vrai que ça fait aussi son chemin, je pense, dans l'esprit d'un certain nombre de pays.
Merci mille fois, on vous retrouvera très vite tellement c'est passionnant. Et maintenant on va faire un petit tour aux États-Unis où, alors là franchement, dans le genre, il y en a une nouvelle chaque semaine qu'on n'aurait jamais cru que c'était possible. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. On y revient après une petite minute de respiration.
Médiapolis continue jusqu'à 11h avec vous Olivier Duhamel et Catherine Ney. Et il est temps de partir aux États-Unis tout de suite.
Xavier Yvon, vous êtes en ligne avec nous.
Oui,
Xavier
tout à fait.
Yvon de New York. Bon, alors, écoutez, on va commencer parce que Trump, cette semaine, Dieu sait qu'il en a mis plusieurs paquets. Il a d'abord annoncé la suspension de l'immigration, a-t-on dit. Écoutons-le.
Des millions d'Américains sacrifient leurs emplois pour combattre le virus et sauver les vies de nos compatriotes. Nous avons le devoir solennel de permettre à ces Américains de retrouver leurs emplois et leurs ressources. Alors pour protéger les travailleurs américains, je vais décréter une suspension temporaire de l'immigration aux États-Unis.
Ça, c'était mardi. Alors j'ai cru comprendre que c'est plus ou moins du pipeau, c'est ça ?
Oui, on peut dire ça comme ça, c'est surtout un énorme effet d'annonce. Vous voyez les gros titres, Trump suspend l'immigration. Sauf qu'en fait, c'est extrêmement limité le décret que Donald Trump a signé cette semaine. Ça ne concerne que les demandeurs de carte verte, vous savez, c'est les titres de séjour permanent aux États-Unis. Et encore, sont exclus de ce décret les conjoints et les familles et les proches des citoyens américains. C'est quand même la moitié des demandeurs de carte verte. Donc ça réduit pas mal le champ d'application du décret. Mmh. Et ça ne concerne pas tous les visas de travail temporaires. Donc en fait, ce n'est pas une suspension de l'immigration, c'est une suspension d'une part partie des visas seulement pour 60 jours. Et puis de toute façon, ces visas que l'on demandait à l'administration américaine, ils n'étaient pas délivrés en ce moment puisque ça ne marche pas en ce moment. Donc en gros, c'est quasiment symbolique, mais ça a eu l'effet escompté, un gros effet d'annonce. Et pourquoi ? Parce que l'immigration, c'est le thème favori de Donald Trump et de ses supporters et qu'il y a une élection présidentielle dans maintenant presque 5 mois.
Mais chaque jour, oui, il a des déclarations incroyables. Comme il a remarqué qu'il suffisait de passer un désinfectant sur les tables pour tuer le microbe, il propose d'injecter du désinfectant dans les poumons des malades. Et comment peut-on dire une chose pareille ? Et
c'est attendez, reçu... on va l'écouter alors, Catherine, puisque vous évoquez ça, on va l'écouter. Alors ça, pour le coup, c'était jeudi.
Le désinfectant élimine le virus en 1 minute. Et peut-être y a-t-il un moyen d'en injecter dans le corps, ou au moins de nettoyer l'organisme, les poumons. En tout cas, ce serait judicieux de tester cela. Il faudrait voir avec les équipes de recherche médicale. Mais moi, ça me paraît intéressant.
Alors là, Xavier Yvon, les bras nous en tombent, on se dit quand même, là, le type pète intégralement les plombs, parce que c'est oui. Dangereux quand même, et ça passe.
Alors oui, c'est dangereux, et d'ailleurs les fabricants de désinfectants ménagers ont dû faire des communiqués le lendemain pour expliquer non, n'écoutez pas le président des États-Unis, c'est dangereux d'ingérer nos produits, donc ne faites surtout pas ça. Oui, ça passe. En fait, ça fait depuis que Donald Trump est à la Maison Blanche qu'on a des déclarations comme ça. Il peut soit dire tout et son contraire dans la même phrase, ou le lendemain ou la veille, dire des énormités comme ça. Mais c'est Donald Trump. En fait, c'est sa manière de fonctionner. Du moment qu'on parle de lui, ça fonctionne. C'est comme ça qu'il a gagné en 2016. Il s'est imposé dans le débat public.
Et son socle électoral ne bouge pas ? Dans les sondages ?
Non, pour l'instant. Alors non, il a toujours une espèce de base de fidèles fanatisés, on pourrait presque dire, qui ne bouge pas. Après, oui, il y a la marge, ça fluctue. Et là, c'est vrai que ces sondages sont en train de baisser. D'ailleurs, c'est ce qui inquiète beaucoup Donald Trump, d'après le New York Times, parce qu'il y a des enquêtes internes à la Maison Blanche qui montrent que dans des états clés pour gagner l'élection, Donald Trump commence à perdre du terrain. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a lancé son décret sur l'immigration. Hein. C'est pas un hasard, c'est purement électoraliste.
Non, pardonnez-moi d'insister sur Xavier Yvon, sur ce truc du désinfectant, parce que quand vous dites c'est toujours comme ça avec Donald Trump, moi, j'ai bien compris la théorie, j'ai bien compris, plus on parle de lui, plus il fait le clown, la télé-réalité, mais je me suis toujours dit, il déplace les limites, mais il y a quand même une limite, c'est-à-dire s'il se mettait à se promener tout nu sur la 5e avenue, ça ne pourrait pas lui profiter, et je pensais que dire qu'il faut avaler du désinfectant parce que ça peut éliminer le virus, on était au-delà de la limite, et vous nous expliquez que non.
Ben non, en fait, moi, je ne sais plus quelle est la limite avec Donald Trump. Vous savez, j'ai l'impression d'avoir tout vu et tout vécu avec Donald Trump depuis que je suis ici, et il arrive toujours à me surprendre. Et il s'en sort toujours. Parce que, comme je vous disais, il y a une base limite fanatisée qui, de toute façon, trouvera qu'il a toujours raison. Et vous savez, le coup des désinfectants, ça nous paraît complètement dingue, mais c'est le faux bon sens populiste. Vous savez, puisque ça marche sur une table, pourquoi ça ne marcherait pas sur moi ? Et c'est comme ça que fonctionne le Trump World. Vous savez, l'une de ses conseillères les plus connues, Kellyanne Conway, qui est incapable de dire des énormités pareilles à la télévision pour défendre le président, elle a dit cette semaine, quand Donald Trump a critiqué l'Organisation Mondiale de la Santé, elle a dit, mais vous vous rendez compte, on en est au Covid-19. Ça veut dire que l'OMS n'a pas fait son boulot, si on est au 19 et pas au premier. On sait bien que le 19, c'est parce que c'est 2019, c'est pas parce que c'est le 19e Covid. Et je suis certain que cette conseillère, qui est très intelligente, le fait exprès. Elle sait que c'est 2019, mais elle dit ça sur Fox News, qui est la chaîne que regardent les conservateurs, les gens qui votent pour Trump, qui sont pour Trump. Et quand vous regardez que Fox News, vous vivez dans un monde parallèle. Mais vraiment, c'est pas une chaîne qui a une petite opinion différente. Si vous ne regardez que Fox News, vous avez l'impression que c'est pas pire que la grippe, que Donald Trump fait tout ce qu'il faut pour lutter, et que ce sont les méchants progressistes qui sont là, qui insistent, qui font un complot pour empêcher Donald Trump d'être réélu. D'ailleurs, il y a eu une étude d'économistes qui montre que la désinformation, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que font certains présentateurs de Fox News, est dangereuse pour la santé. Il y a des endroits dans le pays où on sait que les gens regardent plus Fox News, et certains shows de Fox News où il y a les présentateurs les plus fanatisés, on va dire, eh bien là, on a constaté qu'il y avait plus de gens qui ne respectaient pas les mesures de confinement, de distanciation sociale, etc., et qu'il y avait plus de malades.
Eh ben, c'est joyeux, merci infiniment Xavier Yvon, décidément c'est un autre monde. À très bientôt Xavier Yvon.
À bientôt.
Et allez, on termine ce petit tour d'horizon en allant en Suède sur les conseils d'Alice Baudry, directrice de la communication de l'Institut Montaigne, qui surveille pour nous les médias internationaux. Un article du 21 avril dans le Guardian britannique a retenu son attention. Les journalistes, l'un suédois et l'autre turc, expliquent qu'en Suède, la voie choisie est certes moins draconienne, pas de confinement, pas de fermeture des écoles ou des restaurants, mais qu'elle est peut-être plus exigeante encore, parce qu'elle met la responsabilité non pas dans les lois ou au sein de la police, mais dans l'auto-régulation. Certes, les réseaux sociaux se moquent de la Suède en ce moment, publiant bon nombre de photos de fêtes dans les quartiers branchés de Stockholm, mais la réalité est plus sombre. Chaque citoyen se pose en permanence la question de savoir où placer le curseur entre assurer assez de distance et garder ses libertés pour se déplacer, mener une vie normale tout en soutenant les entreprises locales. À l'étranger, nous choquons, disent-ils. Le choix n'est cependant pas simplement entre la liberté individuelle et un régime autoritaire. Il ne fait aucun doute que ce que nous verrons à l'échelle mondiale à la suite de la crise du coronavirus, c'est le retour de l'État. La question est, quel État ? Et en effet, à l'heure des comptes, on regardera de très près la Suède, la Belgique, où la situation est catastrophique. On n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais c'est probablement le pays dans lequel ça se passe le plus mal. Allez, pour terminer, vous l'avez probablement déjà entendu, pas forcément tous, depuis le Gers, Valentin Vander a réuni 45 artistes depuis leur lieu de confinement pour interpréter la magnifique chanson immortalisée par Bonville en 1963, La tendresse, un enregistrement réalisé de façon intégralement bénévole en soutien aux victimes de la pandémie du Covid-19. Le clip a été vu plus de 2 500 000 fois sur YouTube depuis sa mise en ligne le 29 mars dernier. Bourville, La tendresse revisitée. Enregistré avec 45 artistes à distance, c'est nettement plus fort que faire Mediapolis à 8 personnes qui ne se voient pas. Et Mediapolis, nous n'aurions pas pu le faire sans nos chefs d'antenne, Julien Or et Michel Le Hénaff, que je remercie. De même que Capucine Patouillet qui a préparé l'émission, Julien Blanc qui l'a réalisé, Justine Holman qui nous a accompagnés et bien sûr la reine Catherine. Faites écouter l'émission en podcast sur europe1.fr et revenez nous écouter samedi prochain. Merci, ciao, bye à tous.